l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la présidente du Parc d'Armorique avec un point d'étape important pour ce territoire, notre territoire, qui doit se doter d'une nouvelle charte pour la période 2025-2040. On vous en a déjà parlé, mais c'est important. Il s'agit bien d'un contrat commun entre la population et les personnes qui représentent cette population, les élus, les décideuses, les décideurs. À quoi ressemblera le parc d'Armorique en 2040 ? À quoi voulons-nous qu'il ressemble ? Dimanche 17 septembre, au domaine de Ménesmeur, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, on a pu découvrir les propositions recueillies ces derniers mois et auprès de 900 habitantes et habitants lors des rendez-vous de concertation sur la charte du parc et autres recueils d'avis et de la population. Ces contributions vont permettre de nourrir ce projet de territoire en cours d'écriture par le Parc naturel régional d'Armorique et ses partenaires. Si vous n'étiez pas à Ménesmeur le 17 septembre, voici la séance de rattrapage en compagnie donc de la présidente du parc, Amélie Carreau. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du profil de toutes ces personnes qui ont répondu à l'enquête et puis dans quelle proportion elles ont répondu en ligne ou pas, ou directement ?
Alors le questionnaire est essentiellement en ligne, donc on a eu 900 répondants et parmi eux la population était plutôt celle des 35-49 ans, c'est ce qui ressort effectivement, donc on a un petit peu moins touché les jeunes, mais on a été amené à les mobiliser dans d'autres moments de concertation, en recevant par exemple tous les jeunes des conseils municipaux jeunes du territoire.
Et puis vous alliez parfois sur les marchés aussi, enfin, de voir directement les gens, il y avait même des réunions public, enfin des...
Oui, donc il y a eu plusieurs ateliers de concertation sur 2022, donc l'année dernière, entre novembre et décembre, et on a eu 9 temps de présence sur le territoire, donc en début d'année, avril et mai dernier, donc avec des thématiques sur l'agriculture, l'alimentation, sur la mobilisation collective autour du projet, donc voir comment est-ce qu'on organisait ensemble avec les élus et partenaires, sur la restauration de la nature et des paysages, sur l'aménagement du territoire, sur la sobriété, sur le tourisme, donc en associant essentiellement des partenaires et des temps de présence sur des marchés. Donc on a rencontré à cette occasion, lors du marché de Daoulas, autour d'un moment de pique-nique, et sur Pont-de-Buis-les-Quimères, lors de la fête de la Bretagne, eu l'occasion de discuter avec des habitants et des touristes qui venaient passer un bon moment également. Et les temps de concertation sont terminés par un atelier débat au cinéma Châteaulin, où effectivement on a pu rencontrer la population locale essentiellement.
Donc, la concertation en tout et pour tout aura duré combien de temps ?
On va dire quasi un an quand même, entre les temps d'échange avec les partenaires et jusqu'à la fin de l'été, là, avec la population élargie et les temps de rencontre que l'on a pu avoir sur le week-end de la fête du patrimoine, donc mi-septembre, où on a pu échanger aussi après la présentation des premières idées. On a pu recueillir d'autres suggestions et le formulaire de contribution est actuellement fermé en ligne, mais les habitants qui le souhaitent peuvent encore nous écrire. Donc, vous donnerez peut-être l'adresse sur le site
sur la radio,
ce sera plus simple.
Voilà. Donc, 900 personnes, enfin 900 réponses, finalement, c'est un bon échantillon. En plus, vous avez quand même réussi à avoir des réponses bien réparties sur le territoire du parc. C'est toujours le problème, hein, mais bon, je vois les communes qui avaient le plus répondu, c'était quand même Châteaulin, Pont-de-Buis et Bérien.
Oui, Bérien, Crozon également. Donc, Bérien, on se dit que c'est peut-être parce qu'ils ont été assez impactés par... Le manque d'eau l'été dernier, donc peut-être une sensibilisation plus forte, hein, parce qu'ils sont en attente, comme de manière générale la population du parc d'Armorique, mais peut-être plus sensible parce qu'il y a eu des enjeux plus forts l'été dernier, comme ceux qui ont été touchés par les incendies, effectivement. Crozon, on sait qu'il y a une tension sur la saturation parfois touristique, hein, donc certains habitants, sans doute, ont été plus sensibles à notre interrogation, puisque, comme vous l'indiquiez en préambule, l'objectif, c'est de se donner un ordre de marche sur les actions à mener sur les 15 ans à venir. Et donc, on est intéressé d'avoir les retours des habitants de manière générale.
Et oui, c'est ça. Quand on fait une concertation comme ça, il y a toujours un biais. Enfin, c'est vrai que c'est souvent les plus motivés qui répondent. Enfin bon, voilà, 900 personnes, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui est ressorti comme... évidemment, la question est un peu générale. Qu'est-ce qui vous paraît le plus saillant dans les réponses qu'ont fait les gens ?
Alors, il y a trois grands défis qui sont remontés dans les études. Donc, 72%, pour être précis, des répondants ont été très sensibles sur la protection et la restauration de la nature. 60% des répondants sur l'accompagnement des changements au niveau des modes de vie. Donc, ça peut être tout ce qui est mobilité, consommation, entre autres. Et 53% sur l'accompagnement des activités économiques, puisque le territoire du parc, c'est un territoire effectivement où on préserve la nature, la biodiversité, mais c'est aussi un territoire où on vit. Et donc, il y a eu une sensibilisation assez importante à ce niveau-là des habitants qui ont participé.
Voilà, donc ça c'est les grands thèmes. Ensuite, il y a eu aussi des questions peut-être sur le lien que les gens ont avec le parc d'Armorique.
Alors, ce qui est important, qui est remonté dans le questionnaire dans nos différentes interactions, c'est que les habitants, de manière globale, sont conscients qu'ils habitent sur un territoire de parc. Pas tous, mais certains nous ont fait comprendre qu'ils ont choisi de venir y vivre parce qu'ils étaient sur un territoire préservé ou en tout cas sur lesquels il y avait des actions particulières qui étaient menées par, les élus, par les associations et par les habitants eux-mêmes. Et donc, c'était important pour eux. Aujourd'hui, oui. Ils ne le savent pas forcément suffisamment, donc c'est aussi notre rôle de relayer cette information au plus grand nombre, de savoir ce que fait le parc. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est ressorti de la part des participants. Et on a eu beaucoup de contributions qui sont dans les milieux du tourisme et de l'agriculture, qui sont très présents sur le territoire. Donc forcément, le lien existe avec le parc d'Armorique, puisqu'on a des interactions sur différentes thématiques.
Oui, parce que le parc intervient notamment comme conseiller technique.
On est auprès des offices de tourisme pour travailler sur, pas l'étalement, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas une surpopulation touristique à certains moments sur des espaces préservés.
Réguler les flux.
Donc on est en relation avec plusieurs territoires à ce niveau-là, donc que ce soit au niveau de Crozon comme du Helgoat, là où il y a effectivement une surpopulation à certains moments de l'année dans la forêt. On est en relation avec les agriculteurs de manière générale, puisqu'on sait que la population vieillit, qu'on a plus d'un agriculteur sur deux qui partit en retraite dans quelques années. Et donc on a une place assez importante auprès d'eux pour aussi leur apprendre à les accompagner au niveau technique sur l'installation dans les espaces particuliers que sont les monts d'Arrée avec la lande par exemple.
Oui. On accompagne. Ça s'improvise pas. Et on a évoqué déjà tout ça aussi. C'est aussi pour ça que le parc a un plan alimentaire de territoire, notamment.
Entre autres, et des thématiques d'accompagnement des agriculteurs en circuit court aussi, pour savoir comment s'organiser pour les vendre auprès des écoles. Par exemple, les mises en relation, c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir être amené à travailler de manière plus interactive, sans doute, sur les années à venir. Et comment valoriser au mieux ceux qui produisent sur le territoire pour les mettre en avant auprès des collectivités, pour peut-être dynamiser plus les marchés locaux qui ont effectivement pris pas mal d'essor suite au Covid. Les habitants sont aussi rendus compte que c'était important de pouvoir soutenir les acteurs économiques installés et de pouvoir manger local et de savoir comment c'était produit, de manger surtout des produits de saison.
Donc globalement, vous diriez quand même que le lien avec le parc est positif, hein. C'est un lien plutôt affectueux.
Oui, on a encore du travail à mener, comme les communes comme relais. Hein. Les élus qui siègent au parc sont des ambassadeurs pour nous, de mettre en avant les actions que font le parc. C'est compliqué parfois pour les habitants de savoir exactement ce que l'on fait. On a un domaine, donc le domaine de Ménesmeur, sur lequel on mène des actions de sensibilisation du public, d'accueil des enfants aussi, pour expliquer les races locales que l'on a sur le domaine, d'expliquer les actions en faveur de la biodiversité. Mais on intervient sur tout un tas de sujets, sur la rade de Brest, dans les monts d'Arrée, etc. L'objectif, c'est de faire encore mieux connaître le parc à la population. Et là, effectivement, la population des 35-49 ans a été très présente dans les réponses. Maintenant, il faut qu'on puisse aussi, pas s'attaquer, c'est pas le terme, mais sensibiliser plus les jeunes, puisque dans les 15 ans à venir, c'est aussi les futurs adultes de demain qui auront des gros sujets avec nous à travailler sur la préservation de l'environnement, etc., quoi.
D'ailleurs, ça peut passer par... Là, j'ai vu que l'appel à projet scolaire du parc venait juste de sortir. Ça peut passer par ça, hein, en l'occurrence.
Là, avec la thématique de la géologie, puisqu'on est dans la démarche de labellisation UNESCO du Géoparc d'Armorique, donc pour valoriser le patrimoine que l'on souhaite faire vivre. Et aujourd'hui, vous pouvez effectivement découvrir sur le domaine de Ménesmeur l'exposition qui a été lancée cet été. Et on souhaite travailler avec les écoles justement pour continuer à leur apprendre l'histoire du territoire et le faire vivre dans les classes et sur le territoire.
Ça s'appelle à l'écoute des pierres. Voilà, une petite parenthèse. Alors, la question majeure de cette concertation, évidemment, c'était le climat, enfin les enjeux environnementaux. Et finalement, dans les réponses, on constate que les habitants sont du parc sont prêts. Enfin, il y a vraiment déjà beaucoup de... Ils ont vraiment des en tête les enjeux. Quelles sont les inquiétudes, par exemple, qui sont le plus ressorties?
Alors, effectivement, 80% des répondants sont conscients qu'il faut changer son comportement, ou certains ont déjà initié des changements dans leur quotidien. Les difficultés qu'ils peuvent relever, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils se sentent impuissants seuls, donc ils ont besoin effectivement de l'accompagnement ou qu'on leur montre des exemples. Comment est-ce qu'on peut changer sa façon de consommer? Comment est-ce qu'on peut travailler sur la mobilité, donc avec le covoiturage qui se met en place dans certaines collectivités? Comment est-ce qu'on peut manger local, donc c'est aussi l'occasion de mettre en avant les circuits courts, etc. Donc ce qui est souvent ressorti, c'est seul, comment est-ce que je peux faire changer les choses, et en se disant que le collectif, en fait, c'est 1 plus 1 plus 1 permettra de faire changer les choses. Donc c'est ça souvent qui a pu être le frein, l'habitant qui ne savait pas par où commencer, en se disant que lui tout seul n'arriverait pas à son échelle à faire changer les choses. Ce qui est vrai, hein. Il faut que ce soit un mouvement collectif.
Bien sûr, ouais.
Et on voit que les collectivités ont chacune pu délibérer ou animer un plan climat air énergie individuellement. Et donc l'objectif du parc, c'est aussi de donner un petit peu d'ampleur sur les actions pour aller plus loin auprès des habitants et leur montrer que individuellement l'action de chacun, cumulé à celle des voisins, va compter pour faire évoluer le territoire de manière générale, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les habitantes et habitants ressentent déjà les changements, c'est ça. Que ce soit le changement climatique, les changements, les pertes de biodiversité ou...
Alors, ils se rendent compte, effectivement, on l'a vu l'été dernier avec les incendies en 2022. Ils se rendent compte aussi que l'eau, ce n'est pas une donnée inépuisable, hein, donc il faut être vigilant. On voit avec le coût du carburant, etc., ça change aussi les modes de réflexion, comment est-ce qu'on peut optimiser. C'est souvent le coût qui peut être le frein. Et l'objectif, c'est de travailler sur la sensibilisation et sur l'apport de bonnes pratiques pour que les habitants, justement, puissent se saisir de ces questions-là. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent accéder à des produits bio ou des produits locaux? Comment est-ce qu'ils peuvent changer dans leur locaux, dans leur habitation, la consommation énergétique avec de l'isolation? Je parle de tous ces sujets parce qu'en fait, la charte du territoire du parc n'est pas que celle du parc d'Armorique. Donc, on a aussi les collectivités qui vont être signataires, les communes, les comités de communes, le département, la région. Donc, on a tout un champ d'action dans la charte qui va être formalisée dans quelques mois, qui est très, très large et qui concerne tous les volets de la vie d'un habitant, en fait.
Mmh, c'est ça, oui, rien n'est oublié. En tout cas, le terme sobriété ne fait absolument pas peur. Il revient là dans le résultat de cette enquête.
Complètement, et ça nous rassure, et heureusement. Effectivement, donc les habitants aujourd'hui, on se dit qu'ils sont conscients, et ça c'est ce qui ressort des études, et qu'ils sont prêts à changer. Maintenant, il reste l'accompagnement, comment, par où on commence, et souvent ça va être de l'incitation peut-être en expliquant, en innovant, en montrant comment faire, et ça va être l'effet de masse ensuite qui va permettre au changement de se produire.
Qu'est-ce qu'ils font le plus facilement pour l'instant c'est même assez surprenant parfois.
Oui, ce qu'ils peuvent faire assez facilement, ça va être la consommation en local. Donc, ça, c'est pas très surprenant. C'est au contraire une bonne pratique qui a peut-être été plus présente depuis le Covid, avec la consommation auprès des producteurs locaux, soit à la ferme directement, soit sur les marchés ou dans les rayons des supermarchés locaux, avec justement les producteurs locaux qui sont mis en avant à cette occasion-là. Ce qu'on peut avoir comme constats qui sont faits, ça va être le tri, le recyclage, qui est aussi porté beaucoup par les communautés de communes dans une dynamique de réduction des déchets, de tri, avec les nouvelles poubelles qui sont sans doute mises en place dans les années à venir avec les différentes communautés de communes, pour réduire tout ce qui va être brûlé, tout ce qui va pouvoir être mis en compost. Donc c'est des bonnes pratiques qui sont menées souvent par les habitants sur le territoire du parc de manière générale, puisqu'ils ont parfois souvent un jardin. C'est un peu le...
Oui, alors c'est un sur deux quand même qui dit vouloir pratiquer l'autoproduction, c'est ça? Pas forcément pouvoir, mais en tout cas c'est un souhait, c'est ça?
Oui, ce qui a pu remonter aussi, c'était la volonté d'avoir des jardins partagés. Parfois, ils n'ont pas la volonté d'avoir leur propre jardin, mais de pouvoir travailler avec des voisins. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels les collectivités vont pouvoir se poser plus fortement la question de savoir comment l'implanter dans leurs différentes communes. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de toutes les communes du parc, donc 44 aujourd'hui, plus les potentiels futurs à rejoindre le territoire du parc. Mais c'est des choses qui sont revenues effectivement de manière plus forte que si la population avait été plus urbaine en fait.
Mais en fait, ils sont aussi prêts à des sujets qui pourraient paraître plus clivants, enfin manger moins de viande ou de poisson, et ils sont à peu près 60% à dire qu'ils en consomment moins.
Oui, c'est ce qui a monté effectivement. Donc ça, c'était peut-être un peu plus étonnant puisqu'on est sur un bassin de vie qui produit aussi beaucoup en termes d'élevage, agricole, moins en poisson mais plus en agricole. Je pense que c'est de manière générale, que ce soit sur le territoire du parc ou un peu plus large, des effets de société en fait où on fait plus attention effectivement à l'alimentation. Ça peut être pour des raisons coût.
C'est vrai que souvent les réponses sont liées aussi à la capacité économique de faire ou pas faire.
Donc il faut qu'on analyse ça au mieux, mais en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui avec des habitants qui sont déjà plutôt actifs, mais pour atteindre la marche suivante, c'est des bonnes pratiques ils vont être attentifs aux bonnes pratiques qu'on pourra peut-être leur suggérer, nous, côté parc, comme les EPCI, comme communauté de communes, etc. Quoi.
Oui, sinon facilement tout ce qui est réparation, dons d'objets dont on n'a plus besoin, ça c'est vraiment très facile. C'est déjà très en place. Et en revanche, ce qui coince plus, alors on le comprend, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Il y en a qui disent qu'ils sont même pas intéressés par le covoiturage, par exemple. Il y en a quand même presque un tiers, ce qui paraît étonnant.
On est sur le mois du covoiturage. En ce moment, il y a des challenges qui sont menés par les comités de communes. On se rend compte effectivement que l'autosolisme est très pratiqué sur le territoire du parc de manière générale. Des habitants installés sur les communes du parc vont aller travailler à Brest, Quimper, etc.
Tout seuls dans leur voiture.
Donc là, le prix du carburant va peut-être être un accélérateur pour réfléchir chacun dans leur foyer sur comment améliorer effectivement cette pratique et de partager le véhicule. Je sais qu'il y a des comités de communes qui sont en train de mener le challenge et on aura sans doute des retours d'expérience courant novembre, ne serait-ce que d'inciter et qu'il y ait chaque mois dédié au covoiturage, peut-être une centaine d'habitants qui vont le faire de manière intuitive et naturelle par la suite. Ça sera des bonnes pratiques qui vont peut-être se déployer par effets collatéraux sur leurs collègues du travail. Et le télétravail a aussi été amené à réduire la consommation de carburant par ailleurs.
Il n'y a pas encore. Alors, on va entrer dans les actions. Il reste une dizaine de minutes. Donc, il y a aussi ici la question de la rénovation énergétique. C'est pareil. Il y a une volonté, on veut bien, mais alors c'est pareil. Il y a un frein économique là. Clairement, c'est ça, non ?
Alors, il y a une volonté clairement. Parfois, il y a des difficultés pour remplir les dossiers d'aide, etc. De l'État, parce qu'il faut pouvoir aussi y prétendre. Mais il y a réellement une volonté de la part des habitants de réduire leur consommation d'énergie, parfois de produire eux-mêmes avec les panneaux photovoltaïques qui peuvent être aussi installés. Donc le parc aura une réflexion à ce niveau-là sur comment travailler sur l'insertion paysagère. L'objectif, c'est d'avoir sur le territoire du parc une qualité paysagère supérieure à des communes qui ne sont pas dans un parc. Donc on ne peut pas non plus accepter...
Peut-on mettre un panneau solaire sur une maison à apothèse, par exemple ? Vaste question.
D'architecte bâtiment de France, donc les questions sont un peu justes. Mais du coup, les habitants sont conscients, ils sont aussi sur la récupération d'eau, c'est plein de petites thématiques comme ça, ils éteignent plus facilement les lumières, ils sont vigilants aussi sur tout ce qui va être consommation avec les écrans, etc.
Et la question du tourisme est revenue aussi, parce que le tourisme, certes, c'est du développement économique, mais c'est aussi ça peut aussi être une menace sur des espèces naturelles, donc ça c'est revenu aussi beaucoup.
Oui, et on a, je pense, une réelle attente de la part des habitants d'une part, mais aussi des collectivités, de savoir comment mieux les accompagner en tant que parc sur justement la gestion apaisée et le tourisme durable, tourisme bien réparti sur le territoire. Donc on a, nous, un partenariat avec la Fédération des parcs pour suivre justement le trafic, que ce soit en vélo, en course à pied, etc., des touristes sur le territoire, pour essayer de mieux les orienter et éviter qu'ils ne passent sur certaines parcelles ou certains chemins qui sont particulièrement sensibles en termes de biodiversité. Donc les communes sont en attente à ce niveau-là et les habitants des communes concernées sont très vigilants et souhaitent effectivement qu'il y ait une sensibilisation des touristes.
Alors, sur les actions donc, qui vont devoir se traduire dans la charte, j'imagine qu'elles vont être formulées dans la charte, vous avez repéré des quatre volets, on va dire, et notamment un qui m'intéresse, c'est expérimenter des solutions nouvelles. Qu'est-ce que ça peut être, ça, expérimenter des solutions nouvelles ?
Alors, ça peut être dans différentes thématiques. Sur la partie agricole, par exemple, on se rend compte que dans les années à venir, on aura de moins en moins d'agriculteurs qui viennent d'un milieu agricole antérieur. Donc, des nouveaux installés milieu agricole, les NIMA, on les appelle par l'acronyme.
Ah oui.
De l'innovation, l'expérimentation, ça peut être des tests que l'on a déjà commencé à mener sur le territoire du domaine de Ménesmeur pour accueillir des agriculteurs qui construisent en fait le local pour leur petit poulailler par exemple, et qui puissent le déplacer ensuite sur des parcelles qui pourraient être mises à leur disposition par des collectivités ou par d'autres agriculteurs qui n'ont pas besoin de toutes les parcelles. Donc c'est aussi de trouver des façons différentes de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de s'installer. Donc ça peut être des innovations de ce cadre-là. Il peut y avoir des innovations sur l'éclairage public le soir, où on a vraiment une trame noire que l'on souhaite intensifier sur le territoire en préservant la biodiversité nocturne, avec des bonnes pratiques sur les changements d'éclairage en partenariat avec le syndicat d'électrification du Finistère, par exemple. Donc on associe beaucoup les partenaires sur les différentes expérimentations. Le terme expérimentation peut être un peu fort parce qu'on renouvelle pas, on ne sort pas des idées complètement nouvelles, on est plutôt sur un renforcement et sur un test sur le territoire du parc, sur certaines communes, de certaines actions que l'on veut voir propager sur le territoire des 44 et autres communes qui pourraient rejoindre le territoire du parc. On va travailler sur l'expérimentation des friches agricoles, donc les friches bâties, parce qu'on a beaucoup de bâtiments agricoles, anciens poulaillers, anciennes porcheries, dont les toits sont parfois en amiante.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parfois, quasi à 100% d'ailleurs. Comment faire ? Et c'est un sujet qui nous importe sur le territoire du parc, comme les collectivités dans le cadre de la ZAN, donc zéro artificialisation nette, de savoir comment est-ce qu'on peut travailler sur la démolition d'un bâtiment de ce type ou la reconversion pour le remettre potentiellement en espace agricole qui peut être utilisé pour la production ou pour la mise en herbe par la suite.
Voire petite industrie aussi, pourquoi pas, industrie artisanale, non ?
Ouais, il faut travailler après sur les PLU, les plans locaux d'urbanisme, pour savoir quelles activités on peut mener sur les zones agricoles. Mais c'est plutôt de redonner à l'agriculture des bâtiments qui sont aujourd'hui à l'abandon. Et donc je sais que ça, c'est une attente, ça permettra de redonner aussi du souffle, on va dire, et de la qualité paysagère.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas beau.
Et redonner à l'agriculture des parcelles qui pourraient être retravaillées. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup le parc et les communes du parc, puisque justement, il y a beaucoup, beaucoup de friches aujourd'hui bâties et aucune collectivité ne sait vraiment trop comment s'en saisir, parce que c'est un coût important. Donc on est intéressé de pouvoir creuser le sujet, l'essayer sur quelques communes et essayer de le développer assez largement dès qu'on aura pu trouver comment s'en défaire, quoi.
Donc la possibilité d'expérimenter, et puis un autre levier, c'est tout ce qui est formation et information. Pourtant, on se dit, on en fait beaucoup de l'information, mais ça ne suffit pas encore, apparemment, il faut encore proposer autre chose.
Alors on travaille beaucoup avec les écoles, on les fait venir sur le domaine de Ménesmeur, dans les différents équipements du parc, donc que ce soit des bâtiments, des musées qui soient gérés par le parc ou non, pour sensibiliser, pour informer, et effectivement, il y a sans doute d'autres leviers à activer pour que l'information arrive au plus près de la population. Donc on mène déjà des actions par ailleurs terrain pour expliquer comment on préserve les bancs de merle, comment est-ce qu'on intervient sur le terrain sur la préservation des monts d'arrêt, donc comment on travaille la lande par exemple avec les agriculteurs. Et donc ça passe par des ateliers de formation, par des temps d'accompagnement des agriculteurs ou des habitants. Et l'objectif, ce serait de réussir encore plus à les sensibiliser. Donc là, j'ai pas la réponse exacte. On a listé des actions comme c'est un projet à 15 ans. Heureusement qu'on n'a pas toutes les actions précises, mais ce sera sans doute des choses que l'on pourra affiner en échangeant justement avec les partenaires pour savoir comment mieux communiquer et comment communiquer auprès des jeunes que l'on a aujourd'hui réussi à moins toucher dans le cadre du questionnaire, par exemple. Donc, sans doute des actions terrain, des ateliers, des aires éducatives à déployer encore sur le territoire, les sensibiliser, parce que ce sont eux aussi les acteurs de demain qui pourront être très sensibles, enfin qui sont déjà très sensibles à l'environnement et qui pourront aussi donner des coups de main pour pouvoir préserver de manière générale le territoire.
L'accompagnement technique et financier, ben vous le faites déjà, vous continuerez à le faire, je suppose.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le budget du PAC va pouvoir augmenter ? Ça, c'est Est-ce que ça se définit dans une charte, ça ?
Alors du coup, on n'a pas trop parlé de ces sujets en termes de financement. L'objectif, ce serait de trouver des bonnes pratiques réalisées sur les communes du parc et de travailler sur la transmission. Donc certaines communes, ça a beaucoup évolué depuis la dernière charte. Les communautés de communes ont pris des compétences. Certaines sont plus dotées que d'autres parce que les territoires ne sont pas les mêmes. L'objectif n'est pas forcément de doter plus le budget du parc, mais de travailler en bonne interaction avec l'ensemble des partenaires, des collectivités, pour faire du relais d'informations, du partage d'expériences,
ah oui,
et de monter plus en compétences et en expertise. C'est peut-être, quand on a fait le diagnostic et l'état des lieux de ce qui a été mené sur les 15 ans passés, c'est peut-être cet axe d'amélioration que l'on aura à travailler plus.
En effet,
dans l'avenir.
Si on a des ressources, autant les utiliser sur le territoire. Exactement. Les défis collectifs, ça pourrait être quoi, de se lancer des défis collectifs ?
Les défis collectifs, ça peut être le travail sur le dynamisme des centres-bourgs. On a des communes qui sont parfois toutes petites et plus grandes dans le territoire du parc. On est sur le développement du bien-vivre. Donc, c'est aussi de jouer le jeu collectivement sur le fait de faire fonctionner les commerces de centralité. Donc, ça, c'est des challenges intéressants que les habitants auxquels les habitants répondent déjà, hein, puisque certaines communes ont une petite épicerie qui a plein de services à proposer. Et donc le challenge, c'est d'essayer de faire en sorte que chaque territoire du parc, chaque commune, puisse continuer à être autonome, à se développer et à pouvoir accueillir aussi le touriste qui veut passer et qui peut être aussi un acteur intéressant pour le développement économique. Donc collectivement, effectivement, d'essayer de soutenir les acteurs économiques de manière générale, parce que ça contribue au bien-vivre et ça contribue au développement du territoire de manière générale, quoi.
Juste en 10 secondes, la prochaine étape pour la rédaction, enfin, elle sera rédigée quand, cette charte, officiellement ?
Donc là, on est en train de finaliser la première version qui est en train d'être affinée au niveau technique. Donc elle va être relue en interne et elle va pouvoir être présentée à l'ensemble des élus en fin d'année 2023, là. Donc à l'ensemble des élus des communes concernées par le périmètre du parc. En 2024, donc on va attendre l'avis de l'État, qui va aussi s'assurer effectivement que les ambitions sont à la hauteur de tous les textes réglementaires qui sont en place, donc sur la baisse de production de carbone, etc. Tout ce qui va être interaction avec la population reviendra en 2025 avec une enquête publique.
Ah oui, à nouveau. Ouais.
Mais entre-temps, les habitants peuvent nous écrire sur l'adresse que vous pourrez mettre en ligne. Et l'objectif, ce sera de l'adopter d'ici 2027 dans les communes concernées. Donc, on a encore un petit bout de chemin. Mais d'ici là, on est bien évidemment à l'écoute des habitants, des élus et de l'ensemble des partenaires pour continuer à l'alimenter. Et on est quand même là en train d'affiner une première version qui sera amenée à bouger dans les semaines et mois à venir avec les retours. Mais c'est ça, la dynamique, c'est cible 2027.
Eh bien, merci Amélie Caro, la présidente du parc d'Armorique, qu'on recevra sans doute prochainement à nouveau.
Avec plaisir.
À bientôt.
Merci.